RCF.
Magactu, le magazine du week-end.
Bonjour et bienvenue dans un spécial Magactu afin de vous faire découvrir une âme et une histoire du collège Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne, Henri Carrière, une plume dévouée. Une émission spéciale célébrant les 150 ans d'excellence du collège au service de l'éducation. À la croisée des chemins, Henri Carrière, voilà, entre poésie et médecine. Henri Carrière, médecin de profession et poète de passion, a laissé derrière lui un héritage littéraire méconnu. Plongeons dans l'univers contrasté de cet homme aux multiples facettes. Et qui a eu ce grand exercice, j'ai envie de dire, d'enquête, de travail, de lecture? Il s'agit de Bénédicte d'Artigalong. Bonjour Bénédicte.
Bonjour Jaouet.
Alors comment, du coup, quelle fonction pourrait-vous dire par rapport à ce travail que vous avez mené?
Bon, c'est un travail de recherche et puis ça s'est un petit peu transformé en rencontre avec la personnalité du poète. Et puis finalement, je me suis un petit peu lancée dans un travail de réhabilitation en fait, puisque j'ai très envie de parler de lui aujourd'hui.
Oui, ben, c'est ce que j'ai compris, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on a eu souvent l'occasion de parler d'Henri Carrière. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'en parler de ce, parce qu'on aurait, vous auriez pu choisir de nombreuses personnalités dans de la littérature. Pourquoi celui-ci? Qu'est-ce qui vous a dit « il m'intéresse, il me pique ma curiosité »
Bah, le vide en fait, parce que quand j'ai appris son existence, je me suis rendu compte que je n'en avais absolument jamais entendu parler. Je n'avais vu son nom nulle part, ni aucun titre de ses œuvres. Et habitant à Châlons depuis quand même maintenant un grand nombre d'années, j'ai trouvé que c'était un petit peu étonnant et en fait c'est ça qui a piqué ma curiosité.
Donc ce fameux vide, et vous avez essayé de retrouver toutes ces traces. Ben justement, parce que je fais exprès de ne pas trop en parler d'Henri Carrière, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de cette bio d'Henri Carrière pour aider nos auditeurs à comprendre quel est ce personnage chalonnais? Il est d'ici en plus, hein.
Alors oui, il est né le 23 juillet 1880 à Châlons. Il a fait ses études tant qu'il était à Châlons à l'institution Saint-Étienne. Et ensuite, il s'est dirigé vers la médecine, donc il est parti faire ses études à Paris. Il y a rencontré une jeune femme avec laquelle il a vécu. Et quand il a eu toutes ses habilitations pour exercer la médecine, il est revenu à Châlons, donc avec la jeune femme. Ils se sont installés rue Locher, au 23 rue Locher. Donc c'est une belle maison qu'on peut voir encore en face du Petit Jard. Et il a travaillé à Châlons jusqu'en 1926. Et ensuite, il est parti à la Chaussée-sur-Marne, où il a exercé, et puis après, où il a pris sa retraite et où il est décédé.
Et quelle est la particularité de ce Henri Carrière? En plus d'être chalonnais, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qui fait qu'il a un petit truc en particulier qu'aujourd'hui, on le met à l'antenne d'RCF?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'il a écrit quand même beaucoup d'œuvres, ce qui est assez étonnant vu qu'il n'est plus du tout connu.
Ouais, vous en avez dénombré pour l'instant combien?
Alors, on a dénombré 20 pièces de théâtre en vers, donc pour un total de 23 311 alexandrins, ce qui est quand même assez impressionnant.
Il a produit, on dit bien que ça, c'est ce que pour l'instant vous avez retrouvé, découvert. Oui. Peut-être que quelques-uns sont encore cachés.
Tout à fait, parce qu'en plus de ça, on sait qu'il a écrit 17 ouvrages en prose. Donc, quand je dis ouvrage, ça peut aller du petit livret d'une trentaine de pages à des livres plus conséquents. Il a également fait un gros recueil de poèmes qui s'appelle « Pleurs et sourires ». Et il a aussi fait des recueils de poèmes plus confidentiels dans sur des supports qui n'étaient pas vraiment durables, en fait, donc sur du papier, un petit peu imprimé à moindre coût. Et on sait aussi qu'il a publié des romans avec un pseudonyme. Mais là, malheureusement, pour l'instant, rien n'a été retrouvé.
Et vous êtes toute seule à faire cette recherche?
Pour l'instant, je pense que oui.
Pourquoi pas, si quelques personnes nous écoutent, sont intéressées aussi par la littérature, pourquoi pas s'y intéresser et aider de votre côté aussi à découvrir un petit peu les œuvres d'Henri Carrière. Ce qui m'étonne véritablement quand je vous écoute, c'est la production qu'il a portée d'un point de vue littéraire et de ne pas avoir de traces d'Henri Carrière. Aucun Chalonnais, je pense certainement, mais presque les plus assidus, ne sauraient pas précisément dire qui est Henri Carrière.
Oui, alors en fait, moi j'ai travaillé beaucoup sur un livre qui a été écrit sur lui par son fils, qui était évêque, c'est Monseigneur Paul Carrière, qui était évêque à Laval. Et il a écrit un livre justement sur son père. Et c'est un livre qui est très, très dense. En fait, doit y avoir à peu près 250 pages. Mais il a fait vraiment un travail de classification des thématiques en fait, de la vie et de l'œuvre d'Henri Carrière. Donc le livre est très instructif. Et pour écrire ce livre, Monseigneur Paul Carrière s'est inspiré d'un gros journal intime qu'a écrit Henri Carrière toute sa vie, mais qui n'est pas publié non plus. Donc voilà, Monseigneur Carrière a repris des cartons et il a vraiment déchiffré, parce qu'en plus c'était écrit tout petit, il a déchiffré tout ça et il a pu un petit peu recomposer l'œuvre de son père en fait. Donc ça c'est la source principale.
Ça, vous imaginez, c'est quand même la seule source principale, où c'est Chalonnais, évêque, mais évêque de Laval. C'est incroyable ce paradoxe entre une grande production quasi presque industrielle de la littérature en France et ce côté, ben, on ne le connaît pas. Qu'est-ce qui fait qu'on l'a oublié de nos mémoires? Vous avez des indices?
J'ai plusieurs pistes. Après, voilà, ça ne peut être que des pistes puisque j'ai fait un travail de recherche, mais finalement, c'est qu'un débroussaillage de l'œuvre d'Henri Carrière. Alors, la première piste, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui était très, très modeste. Il ne cherchait pas du tout à être mis en valeur. Donc, ce qui mettait en valeur, c'était le texte et souvent sur des supports, comme j'ai dit tout à l'heure, qui étaient assez fragiles. Donc, en fait, les livres ne sont pas des beaux livres qu'on va exposer dans une bibliothèque. Et de ce fait, c'est tout un relationnel qui n'existe pas, puisque quand on n'a pas un beau livre, on n'en parle pas, on ne le montre pas. Et puis, du coup, les gens qui viennent chez vous ne le voient pas. Donc, il y a cet aspect, c'est purement matériel, mais ça peut être très, très important pour expliquer ça. La deuxième chose, c'est qu'en fait, les pièces de théâtre qu'il a écrites, elles ont été beaucoup rédigées pour les élèves de l'institution Saint-Étienne où lui-même avait été élève. Donc c'est pour ça, c'est une production qui est assez confidentielle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, il a été affecté en tant que médecin militaire et il a il s'est beaucoup déplacé sur divers fronts. Il y avait beaucoup, beaucoup de violence. Il a soigné des centaines de personnes blessées. Il en a vu beaucoup mourir. Et à un moment donné, il a eu une espèce de révélation en se disant que lui, finalement, n'avait pas été atteint par les balles, par aucune blessure. Et toutes les années de guerre ont été un long temps de conversion pour lui, parce que finalement, il a rendu grâce à Dieu de ne pas avoir été blessé. Et il s'est promis à la fin de la guerre de rendre ça, en fait, de rendre cette énergie de vie en se mettant au service des autres. Donc, en tant que médecin, il était naturellement au service des autres, mais ça ne lui suffisait pas. Et c'est pour ça qu'il s'est dit qu'il allait écrire des pièces de théâtre pour les élèves du collège Saint-Étienne. Alors, en fait, les pièces de théâtre, c'est des pièces de théâtre qui servaient pour les fêtes de fin d'année ou bien quand il y avait un événement particulier pour mettre les élèves en valeur. Donc, il a écrit des pièces qui avaient... pour des niveaux différents, il y a des pièces qui sont assez brèves avec des rôles faciles à apprendre, bien que ce soit des alexandrins, et des pièces un petit peu plus conséquentes pour les élèves peut-être férus de théâtre ou doués ou qui avaient envie de faire des rôles plus importants. Mais en réalité, ces pièces n'ont pas été après republiées. Elles ont été éditées une première fois et c'est pour ça après elles sont vraiment littéralement dans tous les sens du terme tombées dans l'oubli.
On touche déjà beaucoup, beaucoup d'aspects hein, que dans cette explication d'Henri Carrière. Donc on entend bien que ses œuvres sont restées dans une zone très privée, plutôt dans une zone très privée et très peu partagée auprès du grand public. Et puis ce côté « je veux aider les autres », je veux faire un petit peu ce que j'aime au fond de moi et en même temps je vais être au service des autres. On commence déjà à dévoiler qui est ce fameux Henri Carrière. On a bien compris qu'en plus, c'était donc un poète. Il a écrit des pièces de théâtre et des poèmes. Et je sais qu'en plus, on avait près de vous. Ça m'a juste fait rappeler à un autre grand écrivain, j'ai plus son nom, Charles Péguy aussi, qui lui, dans cette Première Guerre mondiale, malheureusement, il a perdu la vie. Il a perdu la vie dans la Marne. Me dit, tiens, un des plus connus, malheureusement, nous a quittés et un des plus discrets est resté. Et on n'a pas su en profiter. Eh bien, l'occasion sera celle, justement, d'en profiter et de commencer à découvrir des œuvres littéraires. Et justement, j'ai envie que vous nous parliez de ces œuvres d'Henri Carrière. Une qui est assez particulière, peut-être qui est assez symbolique de qui il est, de ce qu'il aimait écrire, son style.
Oui, je crois que le recueil de poèmes Pleurs et sourires est le plus intéressant et qui pourrait tout à fait être remis au goût du jour actuellement. C'est un ensemble de poèmes qu'il a écrit quand il était quand même assez jeune, mais qui contiennent vraiment toutes ses qualités poétiques. Alors la première qualité qu'on peut lui accorder, c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui était très attaché aux membres de sa famille et ça le rend du coup très proche du lecteur. Par exemple, tout à l'heure, je parlais d'un homme modeste et vous allez voir que c'est le cas quand on ouvre le livre, parce qu'en fait, les trois premiers poèmes qu'on lit ne sont pas de Henri Carrière, mais ce sont des poèmes que son grand-oncle maternel a écrits. Et voilà, lui, la première chose qu'il a voulu faire, c'est rendre hommage à cet homme en mettant des poèmes du vieil homme. Et il y en a un notamment qui est très, très touchant, parce que Henri Carrière fait un éloge de la poésie de son grand-oncle. Et ce poème a été écrit en mai 1900 et en réalité, le vieil homme est mort en mai 1900. Et c'est très touchant parce qu'on ne sait pas si le poème de Henri Carrière a été écrit juste avant ou juste après la mort de l'oncle. Mais enfin, quelle que soit l'époque, en fait, c'est vraiment une grande confiance dans la postérité littéraire de son grand-oncle.
C'est une affaire familiale, oui. L'écriture dans la famille, ouais. Entre le fils qui écrit la mémoire de son père et puis le père qui écrit pour le grand-père. C'est ouais. Incroyable ce truc qu'avait la famille Carrière.
Ah oui, et puis il faisait pas les choses à moitié parce que dans le Pleurs et sourires, en fait, je crois que tous les membres de sa famille ont un petit clin d'œil. Il y a des poèmes qui sont dédiés aux personnes de sa famille ou parfois même il fait, par exemple, il a fait un poème entier sur un arbre qu'il y a dans le jardin d'un de ses parents. C'est un poirier, enfin, qui n'a vraiment rien d'extraordinaire. Mais il a réussi, en contemplant l'arbre, à faire ressortir beaucoup d'émotions et un lien familial comme ça, effectivement, très pur. Enfin, pur, c'est peut-être pas le mot, mais très simple et très touchant, très authentique.
Ah, donc il avait une vraie plume, puissance de la plume, parce que c'est vrai, oui. Donner de l'émotion en décrivant un simple pommier, l'exercice déjà est pas simple, mais en plus de dégager l'émotion, c'est énorme.
Oui, oui, c'est aussi l'une des grandes qualités de son style poétique, c'est qu'en fait, il a une grande variété. Donc, il peut faire des poèmes, comme on a dit là, sur un arbre, ou bien il peut faire des poèmes philosophiques sur l'enfance, en fait, parce qu'il a travaillé en pédiatrie. Et donc, il y a quelque chose qui l'a beaucoup intéressé et pas inquiété, mais quand même un peu perturbé d'un point de vue philosophique. C'est le passage qu'il y a de l'enfance à l'adolescence, en fait, et après de l'adolescence à l'âge adulte. Et pour lui, ça l'interrogeait beaucoup, le changement, en fait, de personnalité, même le changement physique des personnes. Et il y a un certain nombre de poèmes qui sont dédiés à ce thème et je trouve que c'est assez original parce que bon, des poèmes philosophiques, on peut en trouver beaucoup, mais sur un point spécifique comme ça, du passage de l'enfance à l'âge adulte, c'est quand même peu commun.
Vous avez un petit passage intéressant justement d'Henri Carrière qu'on pourrait écouter pour comprendre un petit peu sa plume, son style d'écriture, ou justement j'aimerais après que vous nous en disiez un tout petit peu plus.
Oui, je peux lire le poème justement qui s'intitule « Pourquoi » et qui est celui auquel je faisais référence tout à l'heure avec le changement d'état. Mmh. Alors voilà, « Pourquoi ?» La vie est une chose étrange. Pourquoi l'enfant qui n'est qu'un ange devient-il, en changeant de nom, tout à la fois homme et démon ? Pourquoi sitôt tombent ses ailes et jamais ne repousse-t-elle ? Pourquoi si vite l'inconnu attire-t-il cet ingénu ? Pourquoi, tous, il nous faut souffrir, lutter sans trêve, et puis mourir? Pourquoi, tous, nous perdons nos ailes, et jamais ne repousse-t-elle?
C'est incroyable. J'entends, comme vous dites, une simplicité des mots. C'est des mots très accessibles. Mais son talent, c'est de pouvoir les placer et leur donner un vrai sens. Elle est forte, cette capacité-là.
Tout à fait. Et en plus de ça, bon, alors, il maîtrisait la versification classique. On le voit, il avait un style quand même qui était très, très classique. Et on le retrouve, ce style, dans les pièces de théâtre qui pourtant étaient destinées à des enfants. Donc, on voit que c'est quelqu'un aussi qui, intellectuellement, était très exigeant. Et en plus de ça, il jouait avec la syntaxe. Par exemple, dans le poème que j'ai lu, et on voit bien qu'il y a une espèce de cassure dans l'interrogative. Je relis « Pourquoi sitôt tombent ses ailes et jamais ne repousse-t-elle » On sent qu'ici, il manque un mot. Enfin, on pourrait dire pourquoi aussitôt que ses ailes tombent, pour que ça soit dans un ordre des mots plus classique. Mais il a inversé tout ça, il a mélangé un petit peu les mots. Et finalement, ce qui reste, c'est l'interrogation pure, en fait, le pourquoi qui est répété comme ça dans le poème. Donc ça, c'est la preuve aussi d'une grande maîtrise et d'un goût du français assez particulier.
Oui.
C'est un vrai poète, quoi.
J'en dirais presque une forme de magie, parce que justement, ça me rappelle un petit peu les magiciens qui ne font pas des grands spectacles incroyables à faire disparaître la tour Eiffel. Non, ce sont ceux qui sont tout près de vous, devant vous, voyez toutes ces masses et manipulations et qui vous montrent cette belle magie sans quasiment aucun trucage et ça disparaît. Et j'ai l'impression qu'ils jouent avec nous là-dessus. Regardez avec les mots que vous connaissez devant vous, regardez ce que j'en sors. Ça me rappelle ça en tout cas.
Oui, mais c'est ça. On a aussi le même procédé dans un poème qui est assez long et qui pose la question comment font les gens pour ne pas vivre avec des enfants, en fait. Et c'est pareil, c'est construit sur beaucoup de répétitions. Ça va très très loin dans la réflexion, mais c'est finalement à la lecture très accessible.
Et vous le disiez, il y a un aspect assez philosophique. Est-ce que vous pensez, j'extrapole un petit peu le truc, que peut-être ça peut aider, aiguiller, aider à une réflexion au moins pour les parents en lisant les œuvres d'Henri Carrière? Parce qu'en plus, vous le dites, hein, il y a une grande place à l'enfance.
Oui. En plus, il avait un positionnement assez original en tant que médecin. Parce que il était proche des familles et il y a plusieurs poèmes qui sont intégrés dans des lettres qu'il a donné à des familles après la guérison d'un enfant. Et ça peut effectivement faire réfléchir sur une place très humaine du médecin par rapport à ces jeunes patients qu'on n'a pas forcément aujourd'hui puisque voilà, la médecine a changé, le monde va beaucoup plus vite, donc on prend plus le temps, personne vraiment ne prend le temps de nouer une relation avec un médecin, et lui, il vivait un petit peu à sa manière, à son rythme, et certains poèmes témoignent effectivement de ce lien très fort. Donc des parents qui liraient ces poèmes, ayant eux-mêmes des enfants qui ont pu être malades, se diraient « Oh ben, c'est vrai que le médecin, c'est aussi un être humain. »
Oui, parce qu'en plus, c'est un vocabulaire, c'est le nôtre, hein, on partage exactement le même, parce que souvent on peut se dire, il est quasiment quand même du 19e siècle, on peut se dire, il va utiliser un langage vraiment costaud, méconnu, mais pas du tout, hein. Là je le lis, j'ai compris.
Oui, c'est juste dans la forme des vers, la position des rimes. Donc dans la versification, parfois, c'est un peu daté. Alors je ne critique pas parce que tous les styles sont évidemment valables. Mais ceci dit, c'est peut-être une explication qui fait que il est tombé rapidement dans l'oubli. C'est-à-dire que sa poésie, elle était quand même peut-être trop classique pour l'époque. On était habitué à une poésie qui avait un petit peu cassé les carcans de la poésie classique. Et lui, il aimait cette poésie classique et il est resté dedans. Donc peut-être qu'il n'a pas eu autant de lecteurs enthousiastes que lui aurait aimé en avoir.
Ouais, mais en même temps, vous dites que c'était quelqu'un de très humble. Donc il n'a pas cherché à être véritablement mis en scène, mis en avant. Ça a joué beaucoup du coup aussi de la méconnaissance. Hein.
Ah tout à fait, et puis tout à l'heure vous faisiez référence à Charles Péguy, mais à cette époque, quand il était à Paris, il y avait énormément de poètes qu'il aurait très très bien pu fréquenter. Il aurait pu aussi bénéficier de conseils ou
Je pense que ça allait être ma relation, ma question, les relations justement de la carrière, parce qu'on ne peut pas écrire autant sans avoir eu l'occasion de rencontrer au moins d'autres personnalités du domaine de la littérature, à minima. Donc je ne sais pas si vous avez eu connaissance, s'il avait pu collaborer, échanger, discuter, s'il y a des lettres de change avec un spécialiste peut-être de la poésie. Non.
Alors là, c'est un,
c'est un grand mystère. Peut-être.
Ouais, voilà, vous touchez du doigt une question pour laquelle je n'ai pas de réponse. En fait, étrangement, comme je disais, là, il a fait ses études à Paris. Il aurait très très bien pu fréquenter des cercles littéraires, et on n'a aucune trace de ses fréquentations. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas fréquenté de poètes. C'est juste que son fils, quand il a écrit le livre dont je vous ai parlé sur Henri Carrière, il a bien précisé dans la préface qu'il avait fait des choix. Et donc, si les choix du fils ne se portaient pas sur les fréquentations littéraires de son père, eh bien, elles n'apparaissent pas. Donc, il y a des lettres qui sont des extraits de lettres qui sont reproduits, mais ce sont des lettres plus professionnelles liées à la médecine ou liées à des personnalités de Chalon, mais pas des poètes. Donc, voilà, je ne sais pas.
Donc on ne sait pas en trop les références. Et quand vous lisez toutes ces œuvres, vous essayez de un petit peu de les décrire, les comprendre, est-ce que vous reconnaissez peut-être? Vous vous dites, tiens, ça me rappelle tel poète ou tel écrivain, et vous dites, peut-être l'a-t-il croisé?
Alors, il
Ou au
n'aurait
moins
pas.
connaître les références d'Henri Carrière.
Non, enfin, des vivants, non.
Non.
Des vivants, non. Des vivants, non, parce que sa poésie est datée. En fait, on serait plutôt dans la poésie du 19e siècle, voire même pour un autre recueil qui s'appelle Poèmes de guerre. On pourrait directement aller voir Agrippa d'Aubigné. Donc, ça, c'est un poète baroque. Donc, on n'est pas du tout dans la période. Dans une période de personnes contemporaines à Henri Carrière. Je pense que ses références étaient très livresques. Il donne l'impression d'avoir été un amoureux de la littérature classique et quelqu'un qui n'a pas été en mesure, par goût ou même par talent d'écriture, en fait, de dépasser ça. Et ce qui est très, très amusant, c'est que dans les trois premiers poèmes que son grand-oncle a écrits, il y a, dans la poésie du grand-oncle, beaucoup plus de modernité que dans la poésie d'Henri Carrière, en fait.
Ah, c'est
Donc,
incroyable.
ça veut dire qu'il, par rapport à l'époque, il pouvait faire une poésie plus moderne, puisque le grand-oncle en faisait. Et chez le grand-oncle, on peut retrouver, par contre, plus de références d'auteurs connus, quoi. Donc, ça aussi, le grand-oncle mériterait un travail de recherche, parce qu'il semble, lui aussi, avoir un talent quand même assez remarquable.
Mais c'est le grand-père qui avait une écriture
Voilà,
plus moderne.
oui, des audaces lexicales, on les retrouve chez le grand-oncle.
Mais cette audace de vouloir rester, j'ai envie de dire entre guillemets, classique par rapport à son époque, de faire ce choix, en fin de compte, est-ce que c'est pas plus moderne de se dire, moi je fais un choix de vie, voilà ce que j'aime, ce qui m'intéresse, est-ce que c'est pas quelque part une petite leçon à retenir dans la carrière?
Ah, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi,
Je
c'est
sais pas
aussi.
hein, si j'ai raison, hein, mais
Non,
c'est ce
mais
que.
je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est vrai que quand on lit cette poésie classique avec tous ces 23 311 alexandrins, c'est un sacerdoce à part entière, en fait, hein, d'écrire tout ça. Et c'est vrai qu'il s'est mis à contre-courant de la modernité. Donc, je pense que oui, c'est pour lui, c'était une revendication. Très. Alors, je ne crois pas qu'il l'ait vu comme quelque chose de moderne, parce qu'il était peut-être trop modeste pour avoir un petit peu cette ambition-là. Mais oui, à la lecture, maintenant, c'est tout à fait cette idée qu'on peut avoir.
Mais c'est vrai que c'est important, dès qu'on aime quelque chose, même si ça peut paraître vieillot, se dire, moi c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'anime, de ne pas avoir peur de souvent de faire ces choix-là.
Oui. Et puis, dans certains poèmes, il a su aussi insérer des choses, alors pas des modernités purement poétique dans le style, mais des motifs un petit peu poétiques. Par exemple, dans le petit recueil Poèmes de guerre, il écrit un petit peu comme on aurait pu écrire à la fin du 18e siècle, un texte qui appartient plutôt à la littérature gothique, avec la cathédrale de Reims bombardée et les décombres, la lumière du soir qui passe à travers la rosace. On pourrait se croire dans un roman gothique de la fin du 18e siècle. Et au milieu de tout cela, eh bien, il va parler du canon, de l'écho du canon, et il va brouiller les personnages, ce qui fait que quand le poème commence, eh bien, on ne sait pas qui s'exprime. Donc il y a une voix qui sort de la cathédrale, mais on ne sait pas qui parle. Et en tout, il y a trois voix qui parlent et il faut lire bien quatre pages pour savoir qui s'exprime. Et je trouve ça, alors vous aviez dit moderne, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est très très moderne de brouiller comme ça la lecture. On a un texte qui ressemble à un texte d'Agrippa d'Aubigné, mais en réalité, c'est une lecture moderne puisqu'il faut aller chercher dans le texte de qui il s'agit.
De ce qu'il s'agit. Là, vous parlez de poèmes de guerre, il y a un côté mystique. Est-ce que je me trompe? En vous écoutant, donner cette description.
Alors, pas tellement dans la poésie, c'est pas l'aspect principal, parce que dans la poésie, il a quand même principalement exprimé la tension qu'il y avait entre son amour pour la poésie et son amour pour la médecine. Par contre, son côté mystique, on peut le retrouver dans les pièces de théâtre qu'il a écrites, parce qu'elles ont tout un sujet religieux. Et ce sont des éloges sur la vie de Jésus ou bien sur la vie des saints. Et donc ça aussi, c'est un parti pris très très audacieux, parce qu'en fait, la tradition d'écrire des pièces de théâtre comme ça, qui font des louanges sur les saints, c'est plutôt le théâtre des jésuites. Donc là, ça nous renvoie encore très loin dans le temps, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Et lui, il a repris ça pour lui et il a affirmé sa foi en fait dans ses pièces de théâtre. Et c'est d'ailleurs à cause de ces pièces de théâtre qu'il a eu des problèmes financiers, parce qu'il s'était engagé beaucoup financièrement pour la représentation de ces pièces. Il voulait qu'elles soient représentées hors les murs, en fait, du collège Saint-Étienne. Donc il a loué des salles. Il avait payé très très cher la fabrication des costumes. Mais en fait, il y a des personnes, que ce soit à Chalon ou dans les environs, qui lui mettaient un petit peu des bâtons dans les roues et qui ne réservaient pas les salles. Ça, c'est des choses que raconte son fils.
Sur le fait que c'était, il y avait une dimension chrétienne dans ses œuvres, c'était ça qui faisait barrage ?
Alors c'est peut-être ça, et puis peut-être aussi que ce sont des affaires liées à sa personnalité, parce que vous avez compris que c'est quelqu'un qui était très entier. Il était modeste, mais en même temps, je pense que quand il avait des idées, elles étaient relativement arrêtées. Et en réalité, dans sa biographie, il y a un trou de 2 ans.
Ah.
Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il avait quitté Chalon en 1926 et il s'est installé à la Chaussée-sur-Marne seulement en 1928. Et le fils, Monseigneur Carrière, passe sous silence, ce qui a pu déjà provoquer le départ de Henri Carrière de Chalon. Et puis, les 2 ans, en fait. Et en plus, il s'était endetté à cause des pièces de théâtre, en plus de tout un tas de problèmes qu'on peut effleurer comme ça. Enfin, on peut se demander ce que c'est, mais on n'a pas de certitude.
Donc, il y a un grand mystère à découvrir.
Oui, le fils a protégé certains aspects de son père.
Ouais, ce qui en plus serait pas étonnant d'un évêque quand même de protéger aussi la foi de chacun et même de son propre père. Bénédicte, on se fait une pause musicale avec L'intime et le monde de Noé Pressoff et on se retrouve juste après dans le Mag Actu sur RCF Cœur de Champagne.
Le début et la fin, le chagrin inouï et les joies éternelles, le passé incomplet, l'avenir incertain. Ici un coup de feu, là un battement d'ailes. Toutes les régressions, toutes les avancées, les mains qui se frôlent sur la banquette arrière, les premières amours et les derniers baisers, le début du parcours et la fin d'une guerre. Une chanson qui dirait l'entrée et la sortie, la rage indélébile et la paix qui sommeille, la minute de trop, soudain tout vacille et les heures infinies à fixer le soleil, les écrans que l'on brise et ce que l'on réclame. Tout seul à la séance, un soir de nouvel an, la détresse d'un rire, la puissance d'un drame, en un mot la magie d'être toujours vivant. L'énigme profonde, l'intime et le monde. L'énigme profonde. Une chanson qui dirait la nuit qui se déhanche et le jour qui se lève, la tête dans les mains, les vitrines en miettes et le vent dans les branches, les révoltes d'hier et celles de demain, l'adolescence fiévreuse noircissant chaque page pour échapper au cage que déjà elle pressent, la vieillesse implorant qu'il y ait dans les parages des passants pour lui dire l'heure qu'il est maintenant. Une chanson qui dirait la Méditerranée, les rêves qui prennent l'eau et l'été qui revient, les mêmes affrontements depuis l'éternité, la hache de l'histoire qui brise les destins, l'arrogance d'en haut et la colère d'en bas, les étoiles qui brûlent au-dessus du chaos, les navires immobiles sous le ciel d'Odessa, et Téhéran debout qui chante Bella Ciao. L'énigme profonde, l'intime et le monde. L'énigme profonde.
Une chanson qui dirait les mains qui se détachent, le cœur qui ne bat plus comme au premier matin. Les chutes qui s'imposent, les victoires qu'on arrache, les voix que l'on oublie et les mots qu'on retient. Le désir d'être seul dans une ville inventée, puis d'être auprès des siens parce que tout part en vrille. Une partie d'échecs au bistrot d'à côté. La violence des frontières, la beauté des pays. Le courage de faire et celui de défaire. Avoir été si loin et tout recommencer. L'espérance d'une sœur, l'espérance d'un frère. Sentir que tout s'écroule et quand même chanter. Cette foule euphorique pour un match de foot. La cour de récré à 8h du matin. Le chant des certitudes, le vacarme du doute. L'infini de la route et tes yeux dans les miens. L'énigme profonde. L'intime et le monde. L'énigme profonde. L'intime et le monde.
Chanson qui dirait le début et la fin. Le chagrin inouï et les choses éternelles. Le passé incomplet, l'avenir incertain. Ici un coup de feu, là un peu
l'intime et le monde.
Toutes les régressions, toutes les avancées. Les mains qui se frôlent sur la banquette arrière. Les premières amours et les derniers baisers. Le début du parcours
l'intime
et la fin d'une guerre.
Si vous nous rejoignez, vous êtes à l'écoute d'une émission spéciale Magactu, dédiée à Henri Carrière, une plume chalonnaise, remise en avant par le travail de Bénédicte d'Artigalong. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que déjà il y a une dimension chrétienne un petit peu dans son écriture. Alors je ne sais pas précisément comment ça se passait un petit peu à cette époque-là, est-ce qu'on était beaucoup très anticlérical ou pas du tout, parce que lui il a connu 1905 du coup, hein, cette séparation de l'Église. Comment ça se passait précisément d'apporter cette foi chrétienne ? Est-ce qu'elle était forte en lui ? Et puis en plus, vous dites, il a été mis en difficulté et ça me surprend pour quelqu'un qui est médecin en général. Surtout à l'époque, les médecins étaient quand même très appréciés, toujours au service des autres. Il a fait la Grande Guerre en général, tous ceux qui ont fait la Grande Guerre. Puis en plus, il a soigné véritablement physiquement et puis même très certainement des âmes à s'apaiser dans la souffrance et la douleur. Donc j'ai l'image de quelqu'un, vraiment un guérisseur physique, un guérisseur d'âme, qui apporte un réconfort incroyable, et de me dire, tiens, c'est bizarre qu'on lui ait quand même mis des bâtons dans les roues, quelque part, dans son projet artistique.
Oui, je ne saurais pas trop quoi vous répondre. En fait, ce qu'il y a, c'est aussi que c'est quelqu'un qui était très intérieur. Il a eu 5 enfants et il était très heureux de vivre avec ses enfants dans les deux maisons spéciales, enfin qui étaient spécialement adaptées pour les médecins. Donc c'est des maisons rue Locher à Chalon et puis à la Chaussée-sur-Marne aussi. Et en fait, c'était des microcosmes à part entière, ces maisons. Donc il avait sa femme avec laquelle il s'entendait très bien, ses enfants. Et du coup, tout ce qui est lié à la pratique de la foi, c'était relativement intérieur. C'est pas quelqu'un qui était une personnalité publique et qui pouvait, comme nous ici, parler ou exprimer ses idées. Donc peut-être que ça a été mal interprété parce que c'est comme s'il y avait un clivage en fait dans sa vie avec une pratique religieuse qui était relativement familiale et puis en même temps des pièces de théâtre qui étaient peut-être imposées. Donc il n'est pas impossible que ça ait créé des problèmes de communication avec d'autres personnes.
D'accord. Et comment il a pu écrire un petit peu cette dimension chrétienne dans des poèmes, j'imagine, mais dans une pièce de théâtre? Comment il fait apparaître justement cette dimension ou des passages bibliques, cette foi?
C'est tout simplement en se réinscrivant dans cette tradition des pièces de théâtre à thématique chrétienne, en fait. Par exemple, on sait que le tragédien Jean Racine avait fait aussi quelques pièces de théâtre sur des thématiques uniquement chrétiennes, avec des personnages qui ne sont pas autre chose en fait que ceux qu'on peut trouver dans la Bible. Et aussi principalement, je pense, le théâtre des Jésuites qui écrivait des vies de saints. Donc après avoir fait des pièces de théâtre sur Saint Ignace de Loyola pour valoriser un petit peu l'ordre des Jésuites, ils ont diversifié leur production avec des vies d'autres saints. Par exemple, la légende dorée de Jacques de Voragine est une mine presque, pas infinie, mais vraiment très très riche des vies de saints. Donc voilà, il y a une grosse tradition littéraire dans laquelle Henri Carrière s'est coulé, sauf qu'il s'est coulé au XXe siècle,
oui.
Dans une tradition qui n'était plus du tout, qui n'avait plus du tout cours. Donc il y a fort à parier que ça a surpris aussi les personnes de son entourage.
Et on a connaissance un petit peu justement du monde ecclésiastique par rapport à Henri Carrière, et surtout ses pièces de théâtre qui avaient cette dimension chrétienne. On a des connaissances de ça ou pas ?
Alors moi je n'en ai pas. Après, sans doute que si on poursuit sur les recherches en allant dans les bibliothèques à l'évêché ou dans les archives, on doit pouvoir trouver des témoignages. Moi je n'en ai pas trouvé, si ce n'est dans le livre du fils. Du fils qui fait l'éloge de la foi de son père. Mais voilà, je reviens sur ce que je disais, c'est-à-dire que ça reste pour lui dans le livre un engagement familial.
D'accord. Donc voilà, on parle un peu plus en carrière. Je vais essayer de revenir un petit peu plus sur les œuvres. Quels sont un petit peu les thèmes principaux ? On a compris qu'on en a déjà cité au moins de 2 à 3 principaux, mais si on peut détailler un tout petit peu plus les thèmes qu'il aimait aborder dans ses poèmes ou ses pièces de théâtre.
Ce qu'il aimait aborder beaucoup, c'est le thème de la réconciliation. C'est quelqu'un qui était très attaché à cette idée-là.
Alors là, aujourd'hui, il est très actuel parce que je pense que tout le monde a besoin de réconciliation sur toute la planète. Je vous laisse continuer.
Et donc, il a par exemple, justement pour démocratiser cette idée qu'il avait de développer l'idée de la réconciliation, il a réécrit des contes pour enfants. Il a réécrit, par exemple, l'histoire de Blanche-Neige dans une pièce de théâtre qui s'appelle « La Dame Noire de la Chaussée ». Et en fait, la morale, c'est la réconciliation de la famille après toutes les rivalités de la belle-mère par rapport à sa belle-fille. Toutes les tensions qu'il y a eu dans cette famille, elles se retrouvent à la fin totalement aplanies. Et la preuve de la réconciliation, c'est dans la pièce de théâtre d'Henri Carrière, l'édification d'une petite église à la mémoire du père défunt et aussi pour honorer la réconciliation entre la belle-mère et la belle-fille. Donc c'est un peu original de voir le thème ancien de la construction d'une église pour une problématique qui n'est pas sacrée en fait, qui est juste familiale, des disputes qu'il y a eu entre une belle-mère et sa belle-fille.
Ça a l'air d'être une très belle histoire à écouter et à lire.
Oui, c'est très, très amusant. Donc ça fait partie des pièces de théâtre à connotation moins religieuse que celle dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est écrit en vers. Donc encore une fois, il y a un travail très exigeant. Mais c'est avec beaucoup d'humour, beaucoup de détachement. En fait, rien n'est vraiment pris au sérieux. Et en plus, dans cette pièce de théâtre, il y a un personnage d'une sorcière qui est censée fabriquer un filtre de jeunesse pour la belle-mère. Et la sorcière, elle est un petit peu incapable. Et puis elle a un orgueil très développé. Donc elle est vraiment... c'est un personnage qui est très, très bien traité. Et il y a aussi un personnage assez touchant dans la pièce qui n'apparaît pas beaucoup, mais justement, il n'apparaît pas beaucoup, mais c'est pour ça aussi qu'il est traité avec beaucoup de finesse. C'est le frère de la jeune fille, enfin le beau-fils de la belle-mère. C'est un garçon qui est plein d'ingénuité et c'est un beau personnage.
En plus d'aborder la thème de réconciliation, mais il sait apporter des traits d'humour à son écriture, il sait mettre du fantastique aussi dans son écriture. C'est incroyable ça. J'ai l'impression que vous me parlez de quelqu'un qui est d'ici 2024.
Voilà, mais c'est pour ça que je suis ici aussi. C'est parce que j'ai trouvé qu'il méritait, d'être remis un petit peu en lumière, ne serait-ce que par la variété des styles. Parce que ce qui est bien avec cet auteur, c'est que, par exemple, les personnes qui n'aiment pas du tout les pièces à caractère religieux n'iront pas ouvrir les pièces pédagogiques qu'il a écrites. Bon, très bien. En revanche, ces personnes pourraient aller voir les poèmes de pleurs et sourires qui sont assez simples ou lire les réécritures des contes comme celles dont je vous ai parlé et qui sont presque, je pense, entendables par des enfants, quoi.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qu'il aimait aborder dans ses œuvres ?
La médecine.
La médecine, oui. C'est vrai que vous avez fait allusion, mais j'aimerais qu'on développe justement un peu plus la médecine, puisque ça a été quelque chose de puissant en lui, et il a écrit vraiment aussi là-dessus.
Oui, alors ce que j'avais dit tout à l'heure, c'était des œuvres un peu en marge, en fait. Hein. C'était des poèmes cadeaux ou des petits commentaires pour contextualiser des poèmes qu'il avait offerts à d'anciens patients. Si vous voulez, si on a le temps, je peux lire
un
poème qui est très très beau. C'est un sonnet qu'il a écrit après la mort d'une de ses patientes, une jeune patiente qui avait 18 ans. Et c'est un poème qui montre toute la tension qu'il y a entre le médecin et le poète. Parce qu'on voit le personnage du médecin et en même temps, c'est écrit, enfin vous allez voir, c'est très très bien écrit. C'est un vrai poème d'un grand poète. Scène d'hôpital, 1906. Elle était triste et douce. Elle avait 18 ans. Par un mal implacable, on la savait minée. Et j'allais chaque jour, ma tâche terminée, auprès d'elle, à son lit, m'asseoir quelques instants. Contre la mort injuste, elle a lutté longtemps. Mais personne n'est maître de sa destinée. Au terme du martyre, elle était résignée. Elle s'en est allée un matin de printemps. Son cadavre gît là, nu, dans l'amphithéâtre, rigide comme un marbre et blanc comme l'albâtre. Sa lèvre est souriante, on dirait qu'elle dort. Je la contemple, émue. Ma main reste interdite et tremble avant que de toucher à ce beau corps. L'homme en moi se révolte et mon scalpel hésite.
Ah oui, c'est... La tension est palpable. Ah, c'est un sacré poème.
Oui, et il y en a plusieurs comme ça. Oui, il y a quelques autres très très beaux poèmes.
On sent quand même quelque part qu'il souffre d'être médecin.
Oui. Oui, il souffrait de ne pas... bon, c'est un peu banal, mais il souffrait de ne pas pouvoir tout le temps guérir, en fait. Oui, oui, oui.
Ah oui, c'était une sacrée souffrance. On dit souvent que d'ailleurs, ceux qui ont un talent d'écriture ont une forme de dépression en eux. Est-ce que c'était pas justement là, à ce moment-là, d'être médecin?
Ah oui, tout à fait, c'est possible. Il y a dans les poèmes un peu plus philosophiques qu'il exprime. Par exemple, là, j'ai « L'espoir est une force et c'est une torture ». Et là, j'ai cité qu'un vers, mais en fait, tout le poème, c'est cette tension qu'il y a entre la force, la torture, l'espoir, et puis pas le désespoir, mais ben, l'envie de ne pas se résigner face au mal, mais quand même, voilà, de voir des choses très, très douloureuses.
Ah oui, non, donc on sent bien ce métier de médecin. Et en plus, comment il a pu essayer de trouver cet équilibre entre médecin, qui est très souvent comme là, vous venez de le lire, qui le frustre, qui le blesse, qui lui fait énormément de mal. J'ai envie de dire, tout être humain, se dire, bon, je veux que ça reste dans un coin de la tête, ne plus en parler, essayer d'aller de l'avant. Et lui, il a écrit. Et comment il a réussi? Comment vous pensez qu'il a pu réussir à écrire sa souffrance?
Parce que il a toujours exprimé qu'il n'a jamais réussi à choisir entre sa vocation de médecin et sa vocation de poète. Donc il a vécu avec les deux mains pleines, chaque main remplie d'un travail à 100% de chaque côté. Et donc il n'y a jamais eu de séparation. Il a toujours exprimé qu'il était autant poète que médecin. Et d'ailleurs, il y a d'autres...
Il ne cherchait pas à faire la séparation entre les deux.
Non, pas du tout. Voilà, c'est ça. Donc, il a nourri, je pense qu'il a nourri sa poésie de son expérience de médecin. Et il a aussi nourri son expérience de médecin avec peut-être la distanciation nécessaire. Parce que quand on écrit une pièce de théâtre en vers ou ne serait-ce que le poème que j'ai lu, il faut être concentré. Il faut faire une distanciation avec tout l'environnement. Il faut avoir, comme il avait une grande maison, avec la possibilité de s'isoler. Parce qu'il faut trouver les rires. Il faut faire des alexandrins bien coupés comme il faut. Enfin, je veux dire, c'est un véritable travail d'orfèvre. Et le fait de ne jamais avoir choisi entre les deux activités, je crois que ça l'a naturellement amené à les lier et à les nourrir comme ça l'une et l'autre. Quoi.
Ouais, parce que quand je lisais de mon côté l'horreur que j'ai eue, attention, hein, qui est certainement faussée, je me disais, bon, j'ai l'impression qu'il va être poète, mais quand il est poète, il écrit la médecine, et quand il est médecin, il pense poète. Je lui dis, il est dans une espèce de paradigme bloqué entre deux personnes et il ne sait pas choisir. Quoi. Presque, j'ai plus le terme médical, mais il est coincé entre deux mondes.
Non, mais
c'est l'impression que j'ai eue. Apparemment, peut-être qu'il était nourri de deux et deux lui plaisaient.
Je pense plutôt que c'est ça. Et d'ailleurs, c'est assez caractéristique chez les médecins écrivains. Il y a un certain nombre de médecins écrivains qui expriment la même chose que Henri Carrière. Donc ça donne de l'authenticité à ce qu'il exprime. C'est-à-dire qu'ils sont autant médecins que écrivains. Par exemple, le médecin Martin Winkler, qui a écrit beaucoup de romans, il se présente ainsi, quoi. Il est médecin écrivain ou écrivain médecin, et il n'y en a pas un qui va primer sur l'autre.
Donc il a su jongler ses deux grands désirs, il est animé des deux, quoi.
Oui.
Est-ce qu'il y a une autre une œuvre littéraire qui est fort intéressante à découvrir, à connaître, et qui est assez parlant, soit pour nous, ou assez parlant pour faire connaître Henri Carrière ?
Je crois que c'est son recueil « Pleurs et sourires ». C'est l'œuvre peut-être qui va montrer le plus sa personnalité. Et si on a accès à sa personnalité, je pense qu'après, on va avoir envie d'aller voir les œuvres peut-être un petit peu plus difficiles. Donc, Pleurs et sourires, je pense que c'est un livre qu'on pourrait lire, remettre dans les librairies, en fait, sans honte.
Ben justement, en parlant de librairies, ma question, c'est est-ce qu'il y a des initiatives pour promouvoir ou faire redécouvrir l'œuvre d'Henri Carrière ? Je sais que vous avez fait une conférence. On peut commencer un petit peu déjà par là.
Oui, alors ça, voilà, ça c'est moi, mais ça reste un travail oral en fait, puisque la dernière œuvre, la première et la dernière œuvre sur Henri Carrière, c'est celle de son fils en 1994. Après, les œuvres ne sont pas du tout valorisées, en fait, c'est vraiment dommage. Quand je suis allée à la bibliothèque, c'est la petite anecdote amusante, quand je suis allée à la bibliothèque pour prendre le livre « Pleurs et sourires » pour travailler dessus, je l'ai demandé, puis je n'ai pas pu le lire parce que les pages n'avaient pas été coupées, en fait. Donc ça veut dire que personne, depuis que le livre est à la bibliothèque, ne l'avait demandé.
D'accord, ah oui, effectivement.
Et j'ai dû attendre que l'atelier de reliure coupe les pages proprement pour pouvoir y accéder. Donc en fait, j'ai dû attendre des semaines avant de pouvoir lire l'œuvre.
Ouais.
Donc voilà, ça veut dire, c'est très significatif du manque de curiosité qu'il a suscité et de la difficulté qu'on a à accéder à son œuvre.
Donc il y a tout à faire, de très nombreuses initiatives pour essayer de le mettre en lumière.
Oui.
Est-ce que c'est pour l'occasion d'être à la radio et de se dire si vous êtes intéressé par mettre en œuvre une pièce de théâtre ou des pièces de théâtre, des poèmes, est-ce que c'est pas l'occasion de leur dire essayez de vous intéresser à Henri Carrière et de faire un travail là-dessus et de le mettre en avant?
Oui, d'autant plus que comme ces œuvres s'adressaient à des élèves, elles sont assez courtes. Donc ça veut dire qu'on peut s'engager sur des apprentissages de rôles comme dans Cyrano de Bergerac où c'est vraiment très très long. C'est une autre mesure. Donc bien sûr qu'on peut... toutes les curiosités sont accueillies, je pense, à la bibliothèque à Chalon ou dans d'autres bibliothèques puisque peut-être qu'il y a d'autres bibliothèques qui ont gardé quand même des œuvres, pas tout... bien classé forcément, mais au moins une partie. Et oui, il y a toujours possibilité de trouver quelque chose, ne serait-ce que par extrait.
D'accord. Il faudrait s'intéresser au Collège Saint-Étienne qui va fêter ses 150 ans. J'ai certainement partagé les mêmes couloirs, les mêmes salles de classe d'Henri Carrière, parce que j'étais aussi au Collège Saint-Étienne. Donc on peut inviter le Collège à s'y intéresser, hein, de leurs élèves.
Oui.
Qui a eu une belle carrière quand même, médecin, qui a connu la Grande Guerre et qui a eu des œuvres littéraires.
Oui, puis qui a honoré l'institution en offrant un corpus littéraire. C'est comme si un professeur de français écrivait en continu tous les ans des œuvres pour ses élèves. On n'imagine pas ça aujourd'hui, mais lui, c'est ce qu'il a fait.
Vous, comment il vous inspire ? Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement dans les carrières ? Maintenant que vous êtes professeur de français, vous êtes aussi écrivaine. Il y a beaucoup de choses qui vous animent dans la littérature. Et quand vous le lisez, qu'est-ce un truc en particulier pour vous ?
Il y a plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que ça me fait beaucoup réfléchir sur cette expression de « tomber dans l'oubli » qu'on utilise très souvent, mais en fait, on l'apprend comme ça, de manière légère. Mais je crois que c'est une expression qu'il faut prendre vraiment au sens propre. En fait, Henri Carrière et beaucoup d'autres auteurs sont vraiment tombés dans l'oubli, en fait. Les œuvres, elles sont poussiéreuses, elles sont grises, elles sont pas valorisées. Et puis, il faut vraiment un hasard. Moi, j'ai appris son existence par hasard, mais sans ce hasard, il était encore toujours dans son oubli. Donc, je trouve que ça fait beaucoup réfléchir sur la vanité, un petit peu de la vacuité aussi des existences humaines, parce qu'on fait beaucoup de choses et puis finalement, peu de temps après nos morts, il peut n'en rester rien du tout. Et puis aussi, ça me fait réfléchir à cette valeur de la postérité. Parce que justement, en tant que professeur de français, il y a des œuvres qui sont dans les manuels, qui sont considérées comme des classiques, qu'on lit, et puis parfois qu'on lit tellement qu'on ne les apprécie plus, alors que des auteurs comme ça, beaucoup plus modestes, ont pu produire des choses de qualité et mériteraient vraiment d'être un peu lus, si ce n'est étudiés. Et voilà, donc je me dis, bon bah là on a un petit peu exhumé l'œuvre de Henri Carrière, mais il y en a beaucoup d'autres tout aussi valables que lui et dont en fait personne ne parle, tout simplement parce qu'ils sont vraiment tombés dans l'oubli.
Est-ce que, du coup, je vais partir un peu loin, est-ce qu'on n'est pas pris dans, j'ai envie de dire, dans deux péchés, celui de la luxure où on se dit quelque part, moi, Émile Zola, Victor Hugo ou Molière, ça marche, j'ai de l'argent grâce à ça, je fais tourner mes pièces de théâtre, Henri Carrière, bon, c'est pas rentable quelque part, donc il y a cette forme-là de l'argent, et puis l'autre forme aussi par fainéantise. Me dire, moi, ça y est, j'ai fait mon boulot, j'ai parlé, par exemple, à mes élèves de Victor Hugo, j'ai fait le travail, c'est bon, Victor Hugo, une fois qu'on a dit ça, on se dit, j'ai tout fait de la littérature française, et par fainéantise, on ne s'intéresse pas. Donc voilà, est-ce qu'on n'est pas pris dans ces deux péchés qui ont l'air d'être durs et très prenants?
Ah oui, et puis en plus, c'est dommage, parce que, en fait, les élèves, ils aiment quand on va retourner les rochers, quand on va chercher des choses un petit peu originales. Et moi, je sais que j'ai lu des textes d'Henri Carrière à mes élèves. Je leur ai raconté un petit peu l'histoire de cette découverte. Et ils étaient vraiment très intéressés. Et je pense qu'ils étaient plus intéressés par la présentation de cet auteur inconnu que par un texte, très classique, peut-être qu'il les touchait pas, quoi. Parce que là, ça les a touchés aussi.
Ah, donc, quand même, les jeunes ont la curiosité qui est là. On profite peut-être pas assez de leur curiosité.
Oui, oui.
C'est un indice qui est intéressant.
Quand on leur parle, comme vous l'avez dit, Henri Carrière, il parle simplement et il dit les choses comme il les ressent. Donc, les jeunes sont très sensibles à ça, un langage direct, sans filtre. Parce que souvent, ils reprochent aux adultes d'avoir un langage convenu avec une espèce de barrière entre les êtres, quoi. Qui casse l'authenticité. Donc un poète comme Henri Carrière, d'autant plus que c'est un martyr un peu des manuels de français puisque personne ne le connaît, eux, ça leur parle.
Et surtout quand il a, dans beaucoup de ses écritures, c'est authentique. Il a vu la souffrance de la guerre, il n'a pas été que témoin, il a malheureusement partagé cette souffrance de la guerre, il a vu d'autres souffrances, il sait c'est quoi une famille, ses difficultés, ses secrets. Il touche véritablement qui que ce soit qui le lirait.
Oui, de toute façon, la variété de son œuvre fait que, sans mauvaise volonté, on est obligé de dire à un moment donné que, ah oui, ça c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est vraiment la preuve. Je pense que c'est une intelligence qui mérite d'être connue et appréciée. Et
D'accord. En tout cas, on arrive un peu à la fin de l'émission. Qu'est-ce qui aurait été important de dire qu'on n'aurait pas dit dans cette émission?
J'aurais envie de dire que comme j'ai eu la connaissance de son existence par hasard, je pense que parfois on passe dans des rues, on ne regarde pas trop les noms, on ne fait pas attention aux traces que les ancêtres, je peux dire ça comme ça, ont laissé. Et peut-être que si on avait au quotidien un tout petit peu plus de curiosité, on pourrait comme ça aller s'intéresser à la personnalité qui a donné son nom à une rue ou à un square ou des petites choses comme ça, sans rester forcément que dans l'histoire de la ville, mais aussi pour avoir une élévation un peu, je pense, culturelle par rapport à ces passages.
Oui, je vous invite véritablement aussi auditeurs à suivre ce conseil de Bénédicte Darty-Dalong. Tout simplement qu'en plus, il faut remercier l'ancien maire Bruno Bobrock d'avoir fait au maximum rendu les rues chalonnaises de personnalités locales. Elles sont toutes du milieu ici du terroir. Et donc ça vaut le coup de les regarder et de prendre quelques minutes à savoir qui était cette personne sur la rue, parce que vous allez découvrir qu'en fin de compte, il est proche géographiquement et une vie humaine proche de nous que des grands noms qui ont aussi tout aussi important. Et ça, c'est vrai que voilà, pour Chalon, ça, c'est une vraie richesse culturelle. Et j'en connais en particulier que j'ai eu la chance de connaître, ce qu'on dit souvent nos ancêtres. Mais il y en a que j'ai eu la chance de connaître, c'est Georges Clauze. C'est une belle allée dans le Jard de Chalon-Champagne. Et j'ai eu la chance de connaître ce grand historien de la période Napoléon III. Donc une autre période que Henri Carrière n'a pas connue. mais voilà, donc je vous suis dans ce conseil, Bénédicte. Eh ben merci beaucoup Bénédicte, voilà, de ce grand travail d'Henri Carrière à découvrir. On essaiera à RCF, je sais pas encore comment, mais on va essayer sur RCF de le mettre un petit peu en avant et créer une histoire là-dessus pour laisser l'occasion de découvrir un petit peu qui était Henri Carrière ici entre poésie et médecine. On souhaite véritablement, si vous avez les moyens, de le mettre aussi de votre côté en lumière dans votre bibliothèque, dans votre librairie, eh bien n'hésitez pas, ou sur scène, pourquoi pas. Peut-être que quelqu'un est intéressé.
Par rapport à la librairie, les auditeurs auront du mal parce qu'en fait, on ne trouve aucun livre de lui en vente.
On va essayer de le souhaiter. On est en période de carême de Pâques. On peut se dire que le ciel peut-être va nous écouter et nous aider. Ben, merci beaucoup, Bénédicte. On vous souhaite une bonne continuité. Et puis, je sais qu'on vous retrouvera régulièrement sur RCF avec le magazine La Petite Chronique en lettres de foi.
Merci beaucoup.